finissent par s'exprimer à travers un film.
Tu donnes beaucoup la parole au sans-voix. Hein.
Je me rends compte encore maintenant, vraiment, parce que c'est vrai que quand j'écris, ça part jamais de quelque chose de rationnel. Pour moi, c'est des personnages, des histoires, des inspirations, des choses qui sont venues s'accumuler à l'intérieur de moi et qui m'ont marqué, qui à un moment donné, voilà, pour une raison ou pour une autre, ont besoin de s'exprimer. Et là, j'imagine que c'est un peu cette envie, ce désir de pouvoir donner un voix, donner un visage, de pouvoir faire que certaines histoires, que certains personnages existent au grand jour.
Oui, que ça évolue.
Absolument, que les mentalités évoluent, que les choses évoluent. Après, je suis heureuse de sentir qu'il y a un désir d'évolution, qu'il y a un désir d'ouverture, que des personnages, justement, LGBT, qui n'existaient pas dans la presse, dans les médias, il y a quelques années au Maroc, commencent à exister, que des histoires qui n'étaient pas racontées commencent à être racontées. Je trouve que c'est vraiment un pas en avant qui est très important. Et moi, je sens en tout cas le besoin de pouvoir aussi contribuer à faire exister ces personnes-là, parce que c'est celles qui me touchent le plus, celles qui ne peuvent pas ou qui n'arrivent pas à s'exprimer forcément par elles-mêmes, parce que c'est difficile parfois.
C'est mon impression, mais tu me diras si je me trompe, que le cinéma marocain est en train d'avancer à grands pas. Pas seulement d'ailleurs le cinéma marocain, le cinéma algérien, je pourrais dire la même chose, le cinéma tunisien, mais disons que le cinéma en général maghrébin, il avance. Il apporte des choses extrêmement nouvelles, il enrichit un regard qui est différent et en même temps universel.
Oui, bien sûr que le cinéma maghrébin est en train d'avancer. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de cinéastes qui ont pris conscience aussi du fait de vouloir raconter leurs propres histoires et qu'ils le font et qu'il y a beaucoup de talent et voilà, et qu'il y a un désir justement de raconter les histoires qu'ils veulent raconter, en tout cas avec leur regard, leur prisme à eux aussi.
Alors, dernière question, évidemment, j'ai envie de te poser la question sur tes projets. Tu es déjà en train d'écrire, ne me dévoile pas, c'est pas la peine, mais est-ce que tu es déjà en train d'écrire quelque chose? Tu es déjà en train de faire des repérages?
Non, faire des repérages, c'est vrai que je peux dire que non. D'écrire, il y a toujours des choses, c'est-à-dire que moi je crois que quand on écrit, c'est pas juste le moment où on prend son ordinateur ou son stylo et qu'on se met à écrire. Je crois qu'il y a des choses qui sont déjà en train de s'écrire. Parfois, justement, même à notre insu, il y a des histoires qui sont là, qui commencent à prendre de plus en plus de place. Après, il y a des choses qui sont plus écrites, c'est-à-dire écrites sur du papier, et d'autres que non. Mais je suis pas encore au moment où je sens qu'il y a l'histoire que j'ai envie de réaliser ou que je sens le besoin de réaliser, même pas l'envie, n'est pas encore là. Complètement, en tout cas.
Moi, je te fais confiance, je suis sûre que ça va venir. Écoute, je te remercie infiniment et particulièrement.
جات عندي بين يديا وانا يا كل نيا سحرتني بدور وكلاها جات عندي بين يديا وانا يا كل نيا كنا عايشين افلام انا عييت مليت ما خليت معطيت قلبي اللي هديت أنا بغيت وحبيت صدمة اللي لقيت جات اخدت قلبي وفي لحظة مشات دمشات
Radio Libertaire, les chroniques rebelles. Après le Maroc, l'Algérie, avec un film historique sur une histoire méconnue, enfouie et passionnante. Une histoire de femmes et de pouvoir au XVIe siècle. Histoire dans laquelle Adila Bendimerad incarne la reine Zafira. C'est une réalisation remarquable qu'elle partage avec Damien Ounouri. La dernière reine, un film d'Adila Bendimerad et Damien Ounouri. C'est un entretien avec Adila Bendimerad et Damien Ounouri. Algérie, 1516. Le pirate Haroudj Barberousse libère Alger de la tyrannie des Espagnols mais prend le pouvoir sur le royaume. Malgré leur alliance, il aurait assassiné le roi Salim Toumi, dont la seconde femme, Zafira, va lui tenir tête. Entre mythe et histoire, Zafira représente le combat d'une femme seule, contre tous, pour le royaume d'Alger. Dans le récit de la dernière reine, Adila Bendimerad et Damien Ounouri se lancent à la conquête de l'histoire algérienne, en même temps qu'à l'imaginaire d'une identité oubliée, bien longtemps avant l'histoire coloniale. Le récit se situe au XVIe siècle, avant l'occupation ottomane, et met en scène la reine Zafira et sa résistance, notamment au pirate Barberousse. Son statut contesté entre légende et réalité offre l'opportunité d'aborder une histoire méconnue à travers celle d'une héroïne tragique dont certains nient l'existence réelle. Or, Zafira symbolise la question de l'effacement des femmes dans l'histoire et la force d'évocation de la légende à une époque cruciale et jamais représentée de l'histoire algérienne. Légende ou réalité, cette femme continue de marquer l'imaginaire algérien et cela a suscité un désir de cinéma, souligne Adila Bendimerad. Une nécessité politique et poétique pour l'Algérie, mais aussi pour le monde. Les œuvres cinématographiques tournent majoritairement autour de figures héroïques masculines, et les femmes reconnues sont généralement celles qui ont pris les armes. Zafira, au milieu de tout cela, est dissonante, sensuelle et surtout pas consensuelle. Et Damien Ounouri d'ajouter « Je ne me retrouve pas dans cette glorification majoritairement masculine. J'avais envie de faire des fictions autour du féminin. On ne peut pas mieux parler d'une société ou d'un monde qu'en parlant et en partant des femmes. De plus, on ne peut pas continuer à avancer avec les trous noirs du passé sans savoir où s'adosser. Raconter l'histoire de l'Algérie à travers un récit cinématographique avant la colonisation, c'est rare. Et d'ailleurs, en trouver des empreintes n'est guère aisé. En enclenchant cette démarche, explique Damien Ounouri, nous nous sommes vite retrouvés dans le désert, car il n'existe pratiquement aucune trace de ce passé. Alors pourquoi ne pas partir d'une femme enfermée dans un harem et dans les codes du patriarcat, qui va exploser les lignes, presque en improvisant, accidentellement et par instinct, c'est inscrire ainsi l'histoire de quelque chose entre la volonté, les possibilités et la fatalité. Le projet de film d'époque se heurtait toutefois à un autre handicap de taille concernant les décors naturels. Tous les palais ont été rasés pendant la colonisation, plus des trois quarts des médinas et casbahs ont été détruites en Algérie. Il a donc fallu restaurer, réaménager ce qui demeurait et tourner dans différentes villes pour trouver les décors du film. Ce qu'il importait de montrer, c'était le rôle des femmes, malgré les injonctions du patriarcat. Au cinéma, conclut Damien Ounouri, j'aime que ce corps féminin étonne, bouscule les regards de notre public, habitué à voir dans la vie des corps féminins hautement contrôlés. La dernière reine de Adila Bendimerad et Damien Ounouri est une première œuvre qui marque certainement la réappropriation de l'histoire algérienne par le cinéma algérien. Une histoire tout à la fois culturelle et épique. Cet entretien s'est déroulé dans le cadre du 44e Festival international du cinéma méditerranéen de Montpellier, le Cinémed, en octobre 2022.
C'est l'époque qui nous a inspirés, parce qu'on trouvait que c'était une époque très intéressante de l'histoire de l'Algérie et qui aussi, comme beaucoup d'époques, un des éléments du puzzle qui raconte l'histoire de la construction de ce pays et de notre identité, en fait, de notre culture, de nos ancêtres. Et je trouvais intéressant que dès le XVIe siècle, il y avait des chroniqueurs de l'époque qui parlaient de cette reine. Alors certains qui en parlaient comme si elle avait existé, et d'autres qui disaient non, elle a probablement pas existé. Alors je n'aurais pas pu être comme ça, amoureux. C'est pas son profil. Et on a su aussi qu'il y avait un poète algérois qui avait fait un texte pour glorifier cette reine. Et puis surtout, dès que j'ai commencé à contacter des historiens sur la question de cette reine, que je trouvais, contrairement à tous les personnages historiques, féminins et masculins, mais très fort, très clair, très consensuel finalement, qui sont de vrais héros, je la trouvais, elle, moins consensuelle et plus sensuelle. Donc elle attirait quelque chose de plus romanesque. Et dès que j'ai commencé à enquêter avec des historiens, ça a été rock'n'roll, parce qu'il y a des historiens qui s'énervaient en disant non, elle n'a pas existé, un peu comme certains chroniqueurs du XVIe siècle, et d'autres qui disaient non mais absolument, elle a existé. Mais je trouvais que tout le monde était un peu extrémiste. Et je me suis dit, mais pourquoi y aurait-il des gens depuis le XVIe siècle qui souhaitaient l'avoir existé, et pourquoi d'autres auraient voulu l'effacer si elle a existé? J'ai trouvé que c'était un nœud très intéressant sur peut-être l'effacement de l'histoire des femmes, peut-être le désir qu'il y ait des femmes dans l'histoire. Et par là, je me suis dit, allez, on va rentrer dans cette histoire de pirates, de corsaires et de royaume d'Alger. Et par le regard d'une femme au XVIe siècle, à part les reines anglaises, l'histoire des femmes est effacée, la parole des femmes est effacée. Donc je trouve intéressant maintenant de la réinventer. Barberousse, il avait perdu un bras, il avait un bras d'argent. Bah, faut y aller, hein. On va s'amuser quand même. C'est un désir, un plaisir très enfantin aussi de raconter une histoire. Il n'y a jamais eu de film sur cette époque. Il y a eu l'Andalou de Chouir, mais qui se passe en Andalousie. Non, il n'y a jamais eu de film algérien de cette époque et qui parle la langue algérienne aussi. Très important pour que les Algériens, qui sont les premiers auxquels on pense quand on raconte une histoire, même si c'est une histoire qui est destinée au monde, mais c'est vrai que naturellement on vit à Alger tous les deux, et on imagine toujours notre premier public, des Algériens qui sont là, et des jeunes à qui on raconte l'histoire. C'est très important pour nous de faire ce film, et on espère que ça ouvrira la voie à d'autres films d'époque qui peuvent aller jusqu'à l'Antiquité. Il y a plein de personnages et plein de personnages à inventer aussi. Il y a des personnages historiques, mais des personnages romanesques pour se réapproprier notre histoire, notre culture, et reconstruire et construire notre identité. C'est très important.
Le personnage de Zafira, ça fait penser évidemment à Al-Kaïna, parce que c'est aussi une femme très forte, même si elles sont de caractères différents. L'autre, c'était vraiment une combattante. J'ai pensé presque à une résurgence de ce type de femme dans cette région qui prend les choses en main et qui se rebelle et qui résiste.
Il y a un personnage dans le film, il n'y a pas que Zafira, il y a Chega, la première reine,
oui, aussi.
Qui est une princesse kabyle. Et effectivement, les rois d'Alger épousaient des princesses kabyles. Et c'est ce que fera le frère de Barberousse, Kherden. Il épousera une princesse kabyle pour avoir un fils algérien qui sera le roi d'Alger aussi. C'était comme ça qu'il fallait être le roi d'Alger. Et je pense que le personnage de Chega, on parle d'une reine dont on ne cite pas le nom dans les textes historiques qui aurait levé une rébellion. Son nom n'est jamais cité. Donc nous, on s'est inspiré du roman Zafira qui parle de la reine Chega. On lui a donné ce nom. Elle aurait levé une rébellion qui a échoué. Emmanuel, qui joue ce personnage avec ce travail de costume, elle rappelle la Kaïna, comme l'appelait les Arabes, en fait, la sorcière, mais en fait, elle s'appelle Dria. J'espère qu'il y aura un film sur la Kaïna. Nous, on ne le fera pas, parce que je pense que là, c'est bon pour les films historiques. Ça a été un long périple et on a aussi envie d'explorer d'autres choses pour le prochain film. Mais il faut qu'il y ait plein de films, c'est très important. Tous ces personnages féminins, masculins.
C'est vrai que pour, par rapport à la Kaïna, il y avait quand même cette volonté aussi dans nos films précédents, et moi dans mon documentaire Fidaï, de partir d'un personnage qui est un homme ou une femme ordinaire et qui, pendant le film, va se transformer, se révéler et se métamorphoser. Le cinéma a cette faculté d'enregistrer le temps et la transformation, et moi c'est ce qui m'émeut souvent, voir le chemin parcouru. Traditionnellement, on aurait pu mixer les deux reines en un personnage. Ça aurait été plutôt la voie classique d'avoir une seule reine qui à la fois monte une rébellion, mais aussi affronte un rouge et aussi la mère de l'héritier. Et ça nous plaisait de jouer sur cette seconde épouse qui a un fils, mais qui est le second fils, qui est le fils cadet. Elle est toujours en deuxième position et finalement, elle est même dans sa tribu, dans sa famille d'origine. Elle est orpheline de sa maman et du coup, il y a une autre maman et du coup, elle est encore en deuxième position. Et comment elle se retrouve un petit peu coincée, c'est ce côté coincé qui fait qu'elle va devoir se soulever finalement, de façon peut-être émotive ou instinctive de survie. On trouvait ce chemin peut-être plus intéressant, peut-être plus atypique aussi. Et bien, du coup, moins spectaculaire. Donc, c'est un petit peu à double tranchant. L'histoire des femmes est effacée. Il y a des pharaons effacés. Il y a Isabelle la catholique qui a été reine, mais par un coup d'éclat et presque un coup d'État. Parce que normalement, c'est les hommes qui allaient prendre la suite. Et l'Angleterre est vraiment un cas particulier. Donc, il y a ce côté un petit peu de remettre en valeur les figures féminines. Et il y en a en Algérie, mais il y en a partout.
Justement, l'idée de passation était très importante par rapport à l'histoire algérienne et l'histoire d'Alger. Par rapport à la langue, moi je voulais savoir si c'est de l'arabe classique, de l'arabe algérien, du berbère. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme langage pour justement que ça ne soit pas aussi anachronique d'une certaine manière?
Alors, le travail sur la langue, c'est un travail que je fais depuis très longtemps, qui me passionne, que je fais depuis que je joue au théâtre, et que je fais avec Tahar Bouahara, qui est un des comédiens du film. On parle d'Alja, on parle algérien, donc c'est de l'arabe algérien. On a voulu une langue moderne pour que ce soit compris, mais c'est aussi beaucoup inspiré du Melhoun pour aller puiser du vocabulaire, des façons de parler. C'est un long travail pour arriver à trouver cet équilibre, puisqu'on ne peut pas juste parler en algérien du 16e siècle, il n'y aura pas d'identification, et c'est quand même un film d'aujourd'hui. Et ensuite, bah, évidemment, on a introduit le berbère, la reine, et même par Harouche, parce que le comédien il est franco-algérien, et il parle kabyle, il est de Kabylie, c'est sa région, donc... Et Harouche était en Kabylie aussi, était à Delles avant d'arriver, donc... Et il y a plusieurs langues de la Méditerranée dans le film, ce qui était le cas à Alger, c'était la Méditerranée, c'est-à-dire c'est pas les frontières comme aujourd'hui. Mais pour l'arabe algérien, la Darja, c'est essentiel que les Algériens voient un film d'époque parler en algérien et en berbère. C'est très important pour s'identifier. Je comprends pas l'artifice d'utiliser une langue qui n'est pas la nôtre. J'aurais utilisé de l'arabe classique. On a une langue, quoi. Il faut la travailler, il faut en être fier. C'est un travail passionnant et qui devrait être assez naturel et qui doit se répéter pour les jeunes du cinéma.
اسبانيول محاوطيننا لازم لنا وقت كبير باش نتسلحوا
ما تخافش موالفه وحدي ربي يسهل سليم
لازم نعيطوا للعروج ما كان حتى حل اخر.
C'est vrai que sur la langue il y a eu un travail vraiment conséquent de fait, et un peu à tort des fois on dit que l'arabe algérien c'est l'arabe de la rue. Ce qui est faux en fait, l'arabe algérien, une vraie langue, c'est pas un dialecte, c'est une langue. C'est juste par rapport à l'arabe classique, dans les déclinaisons, ça va changer. Donc là par exemple, on est très content parce qu'au Moyen-Orient, les Arabes comprennent notre film en fait. Puisque malgré les déclinaisons, qui viennent plus du berbère, ils remettent les petits changements et les radicaux et ils comprennent le film. Et donc nous, ça nous tient à cœur de montrer qu'il y a cette langue qui est aussi du patrimoine.
Par exemple, il y a une télé arabe qui prend le film et qui nous dit c'est la première fois qu'on comprend un film algérien. En fait, c'est là où on est revenu au vrai algérien, vraiment, qu'on a été compris par les autres arabes. En fait, c'est en assumant finalement qu'on a été compris. Et ça, c'est génial de pouvoir faire voyager dans le monde arabe aussi le film grâce à la langue.
Vous avez fait un clin d'œil à la langue kabyle par... l'utilisation d'une chanson Didier.
Oui, c'est une chanson que j'aime beaucoup et que je trouve étrange dans son texte parce qu'elle annonce une bonne nouvelle et en même temps elle annonce un mauvais présage et je comprends pas bien le texte et je me dis mais pourquoi ça raconte ça? Il y a une bonne nouvelle et en même temps comme si on se méfiait d'un mauvais présage et que la vie était fragile. Et à ce moment-là, pour Zafira, c'était le moment, un peu comme ça. C'est génial parce que tous les comédiens qui parlent kabyle, mis à part Dali Ben Salah, tous les comédiens qui parlent kabyle sont des arabophones. ils ont dû faire l'effort d'apprendre le kabyle, d'apprendre à chanter en kabyle, et je trouve que c'est important que ça se fasse dans ce sens-là aussi. Voilà, qu'on se réapproprie aussi le berbère, en fait.
كاين حي وحنا اللي نلقاوه وحنا اللي نعذبو.
وشحال يقتلونا لازم نروح نتخباو.
Bon, déjà en 2017 quand on avait été pris pour la bourse sur la base du scénario, on avait été très étonnés parce qu'on était très contents et on a dit « Oh, il y a des gens qui ont cru, mais ils sont fous, mais c'est super en même temps. » Parce que voilà. Et ensuite, quand on est arrivé, quand on a présenté devant le jury et on a mis du temps à en parler avec Damien parce qu'on allait presque l'abandonner, ce film. Et on est arrivé là, c'est comme si ça nous avait mis un coup de pied. Et donc, on s'est mis à le présenter, à en parler et on avait remporté donc le premier prix, ce qui nous a donné une confiance. Ça nous a permis d'aller à la Ciné Fondation à Cannes après, d'être repérés. Et donc, ça nous a permis de se dire que ce film était peut-être possible. C'est vrai qu'on a imaginé, qu'on a rêvé, qu'on a écrit, qu'on a eu du plaisir à ça, mais on avait quand même une vraie peur. Se dire, non, mais on est fou, on ne devrait pas faire ça. Pour un premier métrage, avec beaucoup de moyens qu'on a, mais on ne va pas y arriver. Et c'est comme ça, ce sort de destin, un petit peu, de j'y crois, j'y crois pas. Et à un moment, il y a eu vraiment des fois des traversées du désert. Je disais, non, là, c'est trop dur. Puis, quand on a commencé le tournage, il y a eu le Covid. On a tourné 3 jours, on s'est arrêté, on a perdu énormément d'argent. C'est important pour un film. Et qui a été finalement une chance, qui nous a permis de travailler les détails, de remobiliser l'énergie et peaufiner. Donc entre le moment où on l'avait présenté au cinémaid, le bébé avait vraiment grandi, s'est juste battu comme des fous. Et quand le tournage a commencé, là on a commencé à se dire, chaque jour, on l'a fait la journée, mais non, mais ça existe vraiment, on l'a rendu réel. Enfin moi en tout cas, chaque jour c'était la baraka quoi. J'ai halluciné sur ce que faisait l'équipe du film. Et sur toutes ces années, finalement, on n'était pas vaines, on n'y croyait plus.
C'est vrai que Cinémaid, c'est 2017, ça fait 5 ans. À l'époque, on pensait qu'on le ferait beaucoup plus vite. Je pensais qu'on reviendrait en 2019, en 2022. Donc c'est surtout ça qui a changé. C'était la première fois qu'on en parlait, on va dire, à l'international. Et il y a eu un très bel accueil et ça nous a motivés à dire « Ah, on peut le lancer, c'est un film qui est viable ». Mais finalement, après, on s'est pris beaucoup de coups, de refus, de financement, de « Mais pourquoi vous parlez de l'Algérie au XVIe siècle ?» Et c'est un peu classique. Et c'est quoi? C'est une tragédie. Ce côté-là, cette liberté ou cet affranchissement, on va dire, a un coup. Il a fallu se remonter les manches et y aller. C'est-à-dire que nous-mêmes, on soit producteurs et producteurs majeurs. Majoritaire, même si on a mis en route qu'on a un coproducteur français avec le CNC et d'autres pays comme Taïwan ou l'Arabie Saoudite, mais on est majoritaire, donc on porte tout sur nos épaules et donc à un moment, autant de temps, cette année en tout, on devient un peu fou. Et en même temps, on ne peut pas s'arrêter parce que si on s'arrête, c'est quand même beaucoup d'années quand même. Faire fructifier le temps, parce que rien ne remplace le temps. Ce temps de Covid, nous, c'était pas attendre à la maison, c'était aller à l'atelier et travailler. Ces 3 jours de tournage ont été une répétition générale en conditions réelles. Ça m'a permis de me rendre compte, par exemple, que nos décors étaient un peu nus, on n'avait travaillé que les fonds. Donc là, par exemple, dans le film actuel, il y a beaucoup plus de voilage, un travail sur les tissus et les étoffes qui est beaucoup plus riche. Sur les costumes, Adila était beaucoup plus proche du créateur de costumes. Il y a eu des superpositions de vêtements rajoutés. Les coiffes ont été poussées. Il y a beaucoup plus d'objets réels qu'on en avait à l'époque. On était plus allé en cinéma à fabriquer du faux. On a travaillé les matières et ça a été finalement 1 an et demi qui n'ont pas été d'attente, mais de travail continu. Et aussi de travail de production où on a continué le financement et remonté un peu ce qu'on avait perdu. Ce qui m'inquiétait le plus, c'est que quand on allait pouvoir le faire, ne plus vraiment avoir le feu, l'envie de le faire. Ça arrive, on voit des fois des films sur le papier qui avaient l'air génial, mais en fait le cinéaste a passé tellement d'années comme ça, 5, 6, 7 ans, 10 ans, quand il le fait, il n'y a plus la flamme. Et du coup, le film est un peu éteint et en gros, le nerf de la guerre pour faire un film, c'est l'argent. On était assez innocents à Cinémaid quand on présentait le film, qu'on n'avait pas encore mis vraiment les mains dedans. Mais quand on a commencé à vraiment creuser, travailler et pousser les costumes, on a fait des devis, on est allé aux ateliers Farani à Rome, on a reçu les devis et c'était des montants qu'on ne pouvait pas se permettre. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Là, il a fallu repartir de façon beaucoup plus artisanale avec les couturiers de la Casbah et de réfléchir à des façons locales de fabriquer ce film. Pour la déco, c'est pareil. En France, on est dans un petit budget, une annexe 3. comment avec un budget de film contemporain on fait un film d'époque. On va avoir dans les lignes de budget une grosse facture de costumes, une grosse facture de déco et de figuration, et en plus on a un film avec beaucoup de comédiens. Comment on équilibre ça? Il faut être plutôt malin, ça veut dire des grosses journées, pas beaucoup de temps de repos, et ça veut dire aussi beaucoup d'amour au sens large où il y a les techniciens et les comédiens qui viennent dans le film et qui donnent beaucoup d'eux-mêmes, beaucoup de générosité, et où tout le monde fait un effort aussi financier, sans être demandé, quelque chose comme ça, d'une équipe soudée qui croit en un film et qui veut que ce film existe.
Théâtre, parce qu'on a une culture de théâtre en Algérie qui est assez profonde et ancienne. Donc on a tous les comédiens qui sont autour du roi d'Alger viennent du théâtre, de différents théâtres de différentes régions en Algérie. Ensuite, on a aussi un casting international avec Nadia qui est franco-finlandaise et donc qui a apporté sa langue. On a Dimitri Wito qui a fait le frère de Harout et qui a apporté aussi une richesse de la langue. Et puis bon, on a Dali Ben Salah qu'on avait vu dans le clip Territory. J'en avais parlé à Damien et on l'a rencontré à Paris. Mais sauf qu'à Paris, il était tellement différent du clip. C'était très déstabilisant et puis on a fait ce casting et on l'a eu en tête pendant longtemps et c'est une force incroyable qu'il a apporté à ce personnage. C'est super hein, d'avoir des acteurs qui incarnent les personnages, qui les emmènent même là où parfois nous on n'avait pas réussi à imaginer. Comme chez Gare, on a été quand même entouré par un super comédien de bosniaque, Ahmed Zitouni, mais lui bon, ça m'étonne même pas, il est génial ce comédien. On fait aussi de longues répétitions avec les comédiens. Par rapport à l'industrie, on va vraiment parler d'industrie. Hein. On est parmi les pays chanceux qui ont structurellement, dans l'État algérien finance le cinéma. Le ministère de la Culture finance le cinéma, mais hélas, effectivement, il y a énormément d'instabilité, beaucoup de changements dans les administrations et ça a fragilisé forcément le financement du cinéma. En réalité, il y a tout ce qu'il faut, c'est un peu l'instabilité qui fait que il n'y a pas de continuité comme ça. Donc par exemple, le fonds de cinéma a fermé cette année. On s'est défendu, les cinéastes, on continue à se défendre. On négocie, on se bat un peu avec notre ministère, on les sensibilise. Donc là, je pense qu'ils ont bien reçu le message, parce que chaque nouvelle ministre qui arrive ne connaît pas bien le dossier cinéma. Il faut qu'on leur rappelle, et ils sont souvent surpris de voir qu'on n'est pas si nombreux les cinéastes, mais qu'on est assez déterminés et qu'on tape bien sur la table. C'est ce qui s'est passé cette année. Le collectif des cinéastes, l'association APAC, des producteurs qui se sont vraiment battus, les comédiens qui ont soutenu aussi ce combat, tous les festivals à l'international et la presse internationale qui nous a soutenus, pour juste rappeler que soutenir le cinéma, c'est important. Il y a souvent des discussions, c'est sur comment faire les formations, réouvrir les salles. C'est un dossier qui revient constamment et j'espère qu'on y arrivera. Mais le fait qu'on n'ait pas de salle de cinéma reste un crève-cœur. Parce que le public algérien, c'est un public, dès qu'il y a des salles et des films, c'est rempli. Tout reste à faire encore.
J'ai eu l'impression que le projet de La Dernière Reine, c'était d'abord un projet théâtral. Et je me suis demandé s'il y avait justement ce lien avec la présentation du film en 5 actes, une tragédie en 5 actes. Beaucoup parlent de Shakespeare, moi j'ai plutôt pensé aux tragédies grecques. Donc je voulais savoir quel était le lien quand vous avez pensé à ce projet pour une pièce de théâtre et que c'est devenu un film.
Alors oui, j'avais pensé à ce projet comme un projet de théâtre à l'époque et ça s'appelait Les Noces de Zaphira. Et c'était juste une chambre, 4 personnages. Et ce qui a fait que j'y ai pensé en cinéma, c'est la rencontre avec Damien. C'est vrai qu'avant, je tournais en tant qu'actrice avec Merza Kalouache principalement. Et puis d'un coup, avec Damien, j'arrivais à écrire, qui m'invitait en plus à ça. J'ai trouvé que notre langage commun, c'était le cinéma. Et j'ai pensé que proposer ce projet à Damien, ça correspondait à notre imaginaire quand on est ensemble. Mais en fait, c'est Damien qui a apporté le désir de rendre ce projet théâtral cinématographique. Après, j'adore Shakespeare. Puis j'adore la tragédie grecque, parce que voilà, c'est aussi ma formation de littéraire. Découper le film en 5 actes, ça m'a toujours paru rythmiquement assez naturel. C'est le flow du film, je ne saurais pas vraiment l'expliquer. Peut-être que Damien saura.
Et surtout avec des petites phrases en exergue, qui sont à mon avis très importantes.
C'est Damien.
Quand Adila m'a dit, je préparais de cette idée de pièce de théâtre, j'ai dit, mais attends, tu rigoles, c'est du cinéma. Une reine, c'est une légende, il y a des pirates, il y a Barberousse à Alger, pour en faire un film. Donc j'ai un peu mis le bazar parce que ça nous a mis, ça nous a coûté beaucoup d'années tout ça.
Un peu.
Mais c'était un vrai désir de cinéma et de petits garçons aussi, de se dire mais comment ça se fait, on a tout ça et on le sait pas. On n'est pas obligé de parler toujours de la guerre d'Algérie ou de terrorisme. Et c'est vrai que là, avec le recul, je me dis mais... On nous parle souvent, mais c'est un des premiers films d'époque et tout. Et c'est vrai que même pour le monde arabe, depuis Youssef Chahine et Le Destin, je ne me rappelle pas de beaucoup de films d'époque. Et je pense que c'est malheureux qu'après, comment ça se fait qu'on n'ait que des films contemporains dans notre région, dans les pays dits du Sud. Alors effectivement, les financements sont majoritairement européens. C'est, tous les pays n'ont pas la chance comme nous d'avoir un fonds public qui finance le cinéma. Mais à l'heure actuelle, où on parle d'états généraux du cinéma en France, il faut peut-être penser un peu... la diversité, c'est pas juste des jolis mots. Et l'exception culturelle, c'en est pas un non plus. Il y a peut-être aussi dans ce cinéma-là une espèce de conformisme ou d'hégémonie qui fait qu'en fait, on n'a plus des œuvres. On n'est peut-être plus assez aventurier sur les idées et les envies de films. Ouais, elle n'est pas trop que je le dise, mais moi je disais, quand le scénario a commencé à prendre forme et que moi je suis très cinéphile, donc je regardais des films d'époque qui n'ont pas coûté beaucoup d'argent. Donc j'ai revu les films de Wells, Othello, Macbeth, pour me dire on peut faire un vrai film de cinéma avec de bonnes trouvailles en fait. Et lui a ça dans sa composition de cadre, comment il joue les avant-plans, l'arrière-plan, l'utilisation de décors existants. C'était un peu pour moi des sources d'inspiration pour fabriquer ce film. Je voyais des similitudes entre notre histoire, qui était quand même une tragédie, et Shakespeare. Et je lui ai dit, bon, on pousse ce trait-là. Adila adore aussi être spécialiste d'antiquité. Donc ça s'est découpé assez naturellement en actes. Au montage, on a enlevé, ça a tout le temps bougé. Mais c'est vrai que juste le mot acte, c'était un petit peu froid, alors que nous, quand même, la volonté du film, c'est à la fois d'avoir un peu un côté épique, flamboyant, et en même temps de déboulonner les statues, c'est-à-dire Barberousse, un roi, une reine, les rendre humains, montrer la chair, le souffle, la sueur, et de les sentir proches de nous. Et mettre ce sous-titre, qui sont des extraits de dialogue, c'était un peu apporter la petite touche plus fragile humaine à ce destin, à ces histoires humaines pris dans un destin tragique. Objectivement, on peut dire que oui, on sait qu'il n'y a presque pas de film d'époque, à part le film de Hadjadj sur Fatma Ensoumer, et Mohamed Chouir avait fait un film andalou. On ne sait pas encore exactement à qui s'adresse à l'international le film, c'est une discussion qu'on a avec le distributeur. Est-ce qu'on le présente comme un film d'auteur ou comme un film plutôt commercial, populaire? En réalité, nous, on aime les deux. C'est ce qu'on cherche à faire. On a envie de faire des films que moi, j'ai envie de faire des films que moi, personnellement, j'ai envie de revoir. Et avec l'âge, j'ai moins de patience, donc je m'ennuie devant les films. C'est pour ça que j'essaye de créer du plaisir.
Alors moi, j'ai l'impression que le film n'est pas fini, parce que depuis qu'on a fini le tournage, on est parti en France pour faire la post-production. Ensuite, quand on pouvait rentrer en Algérie, moi j'étais à mon 9e mois de grossesse, et ensuite il y a eu Venise. Donc on a commencé à voyager avec le bébé de festival en festival. Et là, comme le bébé est né, donc il faut lui faire son passeport algérien pour que ma fille puisse rentrer en Algérie. Et donc en attendant qu'elle reçoive son passeport. Parce que là, on a fait un film, un bébé, et puis ça fait 1 an qu'on n'est pas rentré à la maison. Dès que tout ça est prêt, on descend à Alger. Et là, pour moi, quand on fera la première projection en Algérie, je dirais ok, je passe à autre chose et je pourrais commencer avec Damien à penser au prochain film. Puis bon, il y a aussi les démarches administratives pour le film, pour les autorisations de sortie et tout ça. Donc, il doit repasser en commission.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a reçu beaucoup d'encouragement et on a ressenti un engouement assez énorme de la part du public algérien sur le fait de voir d'un seul coup leur langue au XVIe siècle, des personnages héroïques, une espèce de fierté, de joie de voir ça. Le film est très attendu et c'est vrai que malgré le peu de salles, on a 12 ou 15 cinémathèques et après en salle privée, une petite dizaine. Depuis les dernières années, on a eu deux complexes de trois salles, un à Alger et un à Oran, qui ont ouvert. L'idée, c'est d'essayer de faire un espèce de truc transversal entre les cinémathèques, les organismes privés et dans les grandes villes où il n'y a plus de cinéma, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut mettre comme structure gonflable ou en tout cas modulable.
Les camions.
Ouais. Utiliser une maison de culture ou un théâtre pour se projeter, pour être dans du dur, pour ne pas cantonner une sortie juste à Alger et Oran. Par exemple, notre film précédent, Kindil, La femme méduse, avait fait les festivals algériens à Oran, à Béjaïa, à Alger. Mais au final, c'est un petit public qui a atteint, c'est le public comme spectacle vivant. Mais pendant le confinement, on l'a mis sur YouTube et il a... Sans publicité, il est actuellement à 1,8 million de vues. Et c'est un engouement énorme, en fait. D'un seul coup, pareil, c'était un film fantastique. Et du coup, les Algériens étaient très contents de voir un film de genre, en fait. Donc ouais, on a un peu tout à faire. Comme on a envie et que les gens viennent beaucoup en nombre et que ça donne envie aux autorités d'accélérer la construction de cinéma. Le film, on l'a montré à Venise, donc on a fait une première italienne, à Hambourg en Allemagne. C'est la troisième fois qu'on le montre, et ça en France, et c'est vrai que là, ça va parler beaucoup plus. On sait qu'en Algérie, il va y avoir un accueil encore plus émotionnel, et notamment sur la langue, que là, en sous-titre français, on est obligé de synthétiser. L'arabe, la langue est vraiment travaillée, et c'est une très belle langue, et c'est que tous les Algériens qui l'ont vu sont... Ou les gens du monde arabe, du Moyen-Orient, aiment beaucoup le travail de la langue. Être réalisateur, c'est... Et surtout quand en plus on est producteur ou réalisateur avec une conscience de la production, c'est beaucoup de stress et d'angoisse tout le temps. L'argent en préparation, l'argent au tournage, l'argent en post-production. C'est moi personnellement, les seuls moments de plaisir que j'ai, de plaisir vraiment entier, c'est après avoir dit action. C'est le moment où les comédiens font quelque chose du texte et de la mise en scène. C'est-à-dire ils font quelque chose qu'on n'avait pas prévu ou d'un seul coup, le film est en train de devenir vivant. Mais tout le reste autour, moi c'est ma montre. Le matin, vite, il faut qu'on commence. Où sont les maquillages, etc., la déco. À partir d'11h, on est presque en mi-journée. Je sais qu'à 18, ça fait 12 heures de tournage et qu'après, ça dépasse. Et je regarde où je suis par rapport au nombre de plans que je dois faire pour rentrer ma séquence. Donc en fait, c'est beaucoup d'inquiétude, en fait, de mauvais sang, de stress. Et en même temps, c'est des échanges humains très très forts et beaucoup d'amour, d'entraide. Donc il y a des choses assez magnifiques et des moments aussi de joie. Mais il y a un truc de fond comme ça, une inquiétude qu'on porte encore plus. Moi, je suis réalisateur, je suis pas filmé, mais Adila, qui est devant la caméra, c'est encore autre chose de comment elle peut, juste avant, être en train de parler avec des financiers et tout. Et d'un seul coup, je lui dis, Adila, saute, action, et oublie tout.
C'est super dangereux de faire ça en tant qu'actrice. Mais en même temps, c'était tellement stressant autour, même si c'était beau, mais c'était quand même très stressant. Je me suis pas privée de me faire plaisir, de tout couper au moment où on me dit action. Car vraiment, du coup, c'était des moments de liberté, d'insouciance, où vraiment j'ai pu renouer. En fait, c'est comme si ça m'avait protégé et procuré un plaisir infini, du coup, de juste jouer. Le métier d'acteur, c'est jouer, finalement. Donc non, je me suis fait plaisir à jouer pour envoyer balader tout ça. C'était finalement mes seuls moments où j'étais bien. Je pensais pas que j'arriverais à faire ça.
C'est un film algérien, mais moi je l'ai vraiment vu comme un film universel méditerranéen. On a parlé d'Orson Welles, mais il y a quand même plusieurs réalisateurs espagnols qui ont parlé de cette période, et notamment un très beau film de Vicente Aranda qui se passe donc à Constantinople et qui parle des luttes de pouvoir. Et ce qui est très beau dans votre film à tous les deux, c'est dans le premier acte, c'est la différence qu'il y a entre cette chorégraphie très brutale des combats et de l'autre côté, une sorte de luxe très raffiné où Zafira se trouve, on la traite un petit peu de personne un peu superficielle, mais en fait elle est en train de défendre une culture. Moi je l'ai vu comme ça. Donc je voulais savoir si dès le départ vous aviez conscience que ça dépasse et de loin l'histoire d'Alger. C'est très important, c'est le départ, mais je veux dire, c'est universel, c'est à tout le monde, quoi.
Ah ben, je pense que plus on va dans notre particularité, plus ça sera universel et ça sera communicable, et puis finalement, ça parle d'humanité. Je veux dire, ces histoires de trahison, la fratrie comme ça qui s'entre-déchire, les épouses, la jalousie, l'amour... tout ça, oui, c'est universel. Ça parle aux humains, oui, oui, bien sûr.
Et l'émancipation des femmes. Tafira, dès le début, avant même quand elle voit donc son époux, puisque c'est la seconde épouse, elle lui fait une scène. Elle lui dit, mais attends, t'es jamais là.
Mais oui, c'est la sexualité. Oui, oui, vraiment. Mais après, sur les femmes, comme je disais, comme on est deux auteurs, enfin, Damien est très demandeur de ça. Et moi, quand j'écris, bah, de là où je suis, c'est-à-dire je suis une femme, je suis née et je vis à Alger, je travaille à Alger. Donc je vais m'inspirer des femmes que j'ai connues dans ma vie, je vais m'inspirer de moi-même aussi. Je raconte avec une voix de femme, de ce que je connais. Enfin, voilà.
Zafira, elle a un côté Mujahidat, hein. Elle les annonce en tout cas.
Ah oui. Oui.
C'est vous qui m'avez entraîné dans le mouvement, donc.
C'était, ouais,
ah, parce que c'est vous qui avez
faisait des débats sur
les escaliers du théâtre.
C'était incroyable, et c'était un moment où on avait tout arrêté, parce que tout le monde était descendu dans la rue, et avec des comédiens du théâtre de rue, j'avais dit bah, pourquoi on n'irait pas faire des débats dans la rue et au pied du théâtre, parce qu'il y a toute l'équipe de sécurité du théâtre qui nous protégerait, en fait. Et en plus, c'est en bas de la Casbah, donc on était vraiment dans un quartier populaire, 9 mois, et on avait 1 million d'Algériens qui nous suivaient en direct. Dès qu'on commençait, on voyait ça montait, on est comme bon, la vie militante. Zafira, elle est assez complexe et assez inattendue dans son combat. On peut dire que c'est un combat féministe, politique, mais c'est pas si évident pour elle. Je pense que c'est pas quelqu'un qui d'emblée s'est mis dans la politique et qui savait qu'il fallait qu'elle soit militante. Je pense qu'elle est aussi animée par l'envie de vivre et l'envie de survivre, et surtout par une notion de justice, d'injustice et de l'improvisation. C'est-à-dire qu'elle se retrouve là, quand son fils, ils sont dans les sous-sols d'Alger, et son fils lui dit « Allez maman, on va se cacher ». Et elle se dit « Mais en fait, on est encerclés. Si on se cache, on va finir par être attrapés, on va mourir un peu comme des rats. Et ben, on va faire le contraire ». Et elle fait cette entrée, en fait, où elle est avec les soldats, donc avec l'armée quelque part. Et à l'imam, il y a aussi ce truc religieux pour se donner un droit divin quelque part. Et c'est le moment du Aden, de l'appel à la prière. Donc elle utilise ces éléments comme ça, ces notions politiques. Bon, alors j'aurai l'imam, j'aurai l'Aden et je vais rentrer. En fait, elle fait de la mise en scène et elle rentre comme ça et les hommes s'arrêtent et du coup, elle prend le pouvoir un petit peu comme ça. Elle dit à son fils, lève-toi et dis-leur d'ouvrir les portes. Pour moi, c'est quelqu'un d'ordinaire, mais qui va déborder. J'aime pas beaucoup les personnages féminins qui savent tout depuis le début, même masculins d'ailleurs. Et je trouve encore moins évident pour les femmes, vu d'où elles viennent. Il faut quand même tenir compte du fait qu'elles regardent derrière des Judas. C'était ça dans l'architecture de la Casbah, et là, il y a des moucharabiés, et elles regardent. C'est pas si évident, même pour des femmes très courageuses, même pour des femmes qui ont beaucoup de caractère. C'est pas très évident de franchir le pas et de se retrouver au milieu des hommes. Par exemple, à Alger, il y a certains anciens cafés, il y a encore que des hommes. Et des fois, j'ai besoin d'y aller. Alors, je sais qu'ils seront très bienveillants, ils vont pas me virer. Mais c'est vrai que mettre le premier pas et entrer, ça me fait un peu trembler. Sauf quand je suis en tournage. Parce qu'en tournage, on est avec l'équipe du film, et puis on est des femmes hyper actives, et on se retrouve dans des cafés, dans des endroits improbables, mais on y va sans aucun problème. Mais quand je suis une femme ordinaire à Alger et que je rentre, bah, ça me fait un peu trembler quand même. Je dois avouer que c'est pas si évident. Pour les femmes, là d'où on vient, il faut tenir compte de ça. Toujours faut mériter, il faut aller arracher. Et Zafira, c'est un peu ça, c'est un peu de l'instinct. Et encore une fois, j'ai peut-être pas suffisamment de distance avec ce personnage. Après, effectivement, bah, comme vous avez évoqué ma vie militante, je ressemblerai peut-être plus à une Chega.
Continuez, l'engagement aussi. Merci infiniment.
احكيلي على ناس زمان احكيلي على الف ليله وليله ولا لون جاب انت الغوله ولا ولد السلطان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك جيت كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية ننسى باللي احنا كبار في بالك اللي رانا صغار ونملو كل حكاية حكينا على الجنة حكينا على النار ولا الطير اللي عمره ما طار فهمنا معنى الدنيا حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية يا روي كي ما حكى ولك ما جيت ما تنقص من عندك كان يشفى ولا بالك حكي ونسينا مهاد زمان خلينا في كان يا ما كان في كان يا ما كان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية
La dernière reine de Adila Bendimerad et Damien Ounouri. Les illustrations musicales. Bande-annonce de La dernière reine. Big Fish de Karim Baghili et le trio Djoubran. Raoui de Souad Massi. Radio Libertaire, les chroniques rebelles. Revenons au XXIe siècle en Corée du Sud.
About Kim So-hee, un film de Julie Yang. C'est un entretien avec la réalisatrice. En fin d'études secondaires, Kim So-hee intègre un centre d'appel, Korea Telecom, dans l'espoir d'avoir de futures bonnes références professionnelles. Le centre d'appel est en lien avec les lycées afin d'employer un personnel souple, sans expérience du monde du travail, donc qui accepte sans mot dire les pressions et l'exploitation. Les responsables de l'entreprise considèrent les jeunes stagiaires comme des variables d'ajustement au service des objectifs de la boîte. Dès leur arrivée, on leur explique comment dissuader la clientèle souhaitant résilier les abonnements. Les méthodes de persuasion sont notées sur les bureaux. Les objectifs de performance sont affichés sur les murs de la salle de travail avec, conjointement, le classement des employés par taux de réussite de chacune et, implicitement, la menace de suppression de postes en cas de baisse de rendement. Les conditions de travail sont dégradantes. Les stagiaires sont constamment harcelés et, très rapidement, Kim So-hee, malgré sa détermination et son caractère bien trempé, change d'attitude et son moral décline. Le film est construit en deux parties et autour des personnages principaux, Kim So-hee, la jeune lycéenne passionnée de danse, et l'inspectrice qui enquête sur plusieurs suicides et incidents survenus dans cette entreprise. Durant son enquête, cette dernière va remettre en cause tout le système, depuis la responsabilité des écoles et du ministère de l'Éducation, jusqu'au libéralisme qui banalise les abus et les considère comme acceptables. De son côté, l'entreprise cherche à tout prix à se décharger de sa responsabilité dans les suicides, refuse également la référence à l'accident du travail qui, de facto, impliquerait les pratiques managériales. La compétition affichée sur les murs du lieu de travail, les humiliations publiques, le harcèlement, la culpabilisation pour des résultats jugés médiocres, la manipulation de la clientèle.
Le film est une véritable plongée dans le système qui régit la société coréenne. Mais en fait, toutes les sociétés, qui ont à divers degrés le culte de la performance. Bien entendu, cela concerne tous les niveaux de la société où règne la compétition, la culpabilité de ne pas être à la hauteur des objectifs fixés par les décisionnaires et la course aux aides de l'État. Les revendications ou les remises en question sont ainsi toutes écartées. Place au culte de la performance, comme si c'était le Saint Graal. L'écriture du film s'inspire d'un fait réel et analyse la dimension des conséquences de l'emprise de l'ultralibéralisme sur toute la société. Après la première tentative de suicide de Kim So-hee, personne ne se pose la question sur les causes du geste de la jeune fille qui est seule face à la société, sa famille et même ses amis. L'individu est ainsi totalement isolé dans le système libéral. Après la découverte du corps de Kim So-hee, l'inspectrice en charge de l'enquête, d'abord tentée de classer l'affaire en jugeant Kim So-hee psychologiquement fragile, se ravise en découvrant des indices impliquant directement le cadre professionnel de la jeune fille. Elle-même souffre d'un trauma dont elle refuse de parler avec son responsable. Une blessure intime qui sans doute la rend plus attentive au drame vécu par Kim So-hee. Les indices émergent peu à peu durant le film et participent à la tension qui s'installe de plus en plus prégnante en soulignant les aspects de l'ultralibéralisme régnant dans le pays comme d'ailleurs dans tous les pays. Oh Yoo-jin, l'enquêtrice, suit les traces de Kim So-hee, visite les mêmes endroits, rencontre les amis et les connaissances de la jeune fille depuis le début de son stage pour comprendre ses motivations. About Kim So-hee prend alors la dimension d'un portrait croisé des deux femmes et de leurs liens communs. La danse, l'envie de bien faire, le refus de la résignation, les heurts avec la hiérarchie. La rencontre avec l'ami et partenaire de danse de Kim So-hee est déterminante dans la compréhension du phénomène. Les personnes qui ne se conforment pas aux règles imposées de la performance et au respect de la hiérarchie sont dans la souffrance. Elles quittent leur job ou sont broyées par le système. Les accidents du travail dus à cette ambiance hyper stressante sont évidemment niés par la direction et l'équipe de jeunes cadres dynamiques s'y emploie avec une batterie de règles, d'arguments, mais aussi de manipulation des faits. Par exemple, la lettre d'alerte du manager qui se suicide est dissimulée et l'on présente à son épouse une contre-vérité odieuse. Il menait une double vie. Mensonges et menaces implicites destinées aux employés tentés de parler en faveur de l'homme suicidé. About Kim So-hee, second long métrage de Julie Young, après A Girl at My Door, mêle l'enquête au portrait des personnages principaux, mettant ainsi en lumière les méthodes et les conséquences mortifères de l'ultralibéralisme. L'enquête est en quelque sorte un fil d'Ariane qui remonte la chronologie des événements aboutissant au suicide de Kim So-hee et dévoilant aussi des similitudes de caractère entre les deux femmes. Julie Young réalise le portrait d'une société qui met en danger sa jeunesse. Les écoles et le ministère de l'Éducation jouent un rôle déterminant dans ce système en participant à la pression sur les jeunes dès leur première expérience du monde du travail. Dirigées avec rigueur et sensibilité, les deux comédiennes incarnent merveilleusement leurs personnages. Ce film, qui explore une société qui dérape, pose bien des questions. Est-il un message d'alerte contre le déni des responsables, la déshumanisation ordinaire que tout le monde semble accepter comme une fatalité, est-elle un pas vers la barbarie ordinaire? Néanmoins, il y a un signe, sinon d'espoir, du moins de résistance. Au début du film, la danse de Kim So-hee et le dernier plan, sa danse à nouveau, comme l'unique trace de sa courte vie. Inspiré par un fait divers dramatique, Julie Young réalise un portrait sans concession de la société coréenne sous tutelle du libéralisme et en explique la genèse.
이 사건이 실제 있었다는 사실을 실제 사건이 2017년 초니까 나는 2020년 말에서야 알았는데요. 그 사실을 알았을 때 그럼 나는 그때 뭐 했지? 라고 돌아보니까 한국에서 한참 대통령 탄핵 심판 때문에 한동안 온 나라가 시끄러웠던 그때였어요. 나는 그때 그 탄핵 심판에 관해서는 계속해서 그 뉴스를 찾아보면서 온 이 촉각을 곤두세우고 집중하고 있었는데 그 와중에 한편에서는 이런 일이 있었다는 거. 그 이후에도 비슷하게 어린 이 친구들이 일을 하다가 죽거나 다치거나 하는 뉴스들을 접했는데 왠지 굉장히 나랑은 좀 상관없고 거리가 먼 일이라고만 생각을 했었거든요. 그러면서 도대체 대통령이 탄핵되는 일은 뭐가 그렇게 나랑 가까워서 그렇게 맨날 그것에만 집중하고 있었을까? 도대체 왜 그 어린 친구들이 일하다가 죽는 일은 나랑 왜 상관없는 일이라고 느꼈을까? 이 거리감의 차이는 뭘까? 이게 제일 굉장히 컸던 것 같아요. 그러면서 구체적으로 이 사건을 알아보고 또 비슷한 다른 사례들을 알아가면서 결국에 내가 이해한 거는 나는 상관없는 게 아니라 이 일을 반복하게 하는 이 사회 전체의 하나의 일원이었구나 하는 데까지 생각이 이르렀거든요. 그러면서 영화로 꼭 그 사건뿐만이 아니라 이것을 반복하게 하는 우리 사회 전체에 대한 이런 것도 한번 얘기를 해봐야겠다 생각이 들었습니다.
En fait, l'histoire vraie s'est passée au début de 2017. Elle en a pris conscience à la fin de 2020. Après, elle s'est rendue compte, mais qu'est-ce que je faisais à cette époque-là? Pourquoi j'étais pas au courant de cette histoire? C'était vraiment en plein milieu de procès en destitution de la présidente Bakkenet à l'époque. Donc, elle suivait tout ce qui concerne de ces procès. Pendant qu'elle faisait ça, d'autres coins du pays, il s'est passé quelque chose. Elle a appris trop tard. Du coup, elle commence à voir tous les autres choses qui ressemblaient à cette affaire. Elle s'est rendue compte en faisant les recherches, il y a des morts similaires qui se reproduisait à répétition dans ce monde. Elle commence à se poser question, mais pourquoi alors cette procès en destitution de présidente était aussi important pour moi? Alors pourquoi je sens si distancée avec cet enfant qui s'est donné la mort? Et du coup, elle commence à poser des questions, ce problème de distance aussi. Donc, quand elle commençait à faire des recherches vraiment, elle a compris. Il s'agissait tous les rouages du système du pays. Et donc, elle voulait traiter non seulement ce cas particulier, mais aussi le problème de la société dans son ensemble. C'est ça qui lui a donné l'envie de faire ce film.
Julie choisit en fait de faire deux portraits de femmes qui se croisent et qui en même temps font avancer cette recherche, cet approfondissement de l'étude sur le système ultralibéral. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, elle montre qu'il y a la vue de la jeune fille, Kim So-hee, qui est très jeune, qui n'a jamais été dans le monde du travail, qui connaît rien. Et puis, il y a la vue donc de l'enquêtrice qui, elle, a une maturité et qui connaît, etc. Mais il y a une chose qui les lie, à mon avis, c'est pas dit de manière très claire, mais toutes les deux ont subi un trauma.
어떻게 보면은 전반부의 소희의 이야기는 그 지금 트라우마를 겪고 있는 아이 그리고 끝내 그걸 극복하지 못하고 죽어버린 아이에 대한 것이기도 하고 그 다음에 등장하는 유진의 이야기는 그 자신이 어떤 트라우마를 갖고 있는지는 모르겠지만 지금 당장에 그 사람한테 중요한 건 이 소희라는 아이가 죽었다는 사실 그리고 더 이상 존재하지 않는다는 사실 그게 어떻게 보면 새로운 트라우마?
Dans la première partie du film, en fait, il s'agit donc d'un trauma que jeune fille souffre. Et finalement, cette jeune fille, elle n'arrive pas à surpasser ce trauma. Et la deuxième partie est celui avec Usine. On ne sait pas quel trauma qu'elle a eu. Bon, ce n'est pas très clair dans le film. Mais le nouveau pour elle, c'est que, en fait, Sori n'existe plus. Ça devient nouveau pour elle.
영화 속에서 유진이 겪었을 과거의 어떤 것을 말해주지는 않지만 지금 자신과는 전혀 그러니까 한번 진짜 잠깐 스쳐 지나간 적이 있을 뿐인 그 아이를 쫓아가는 이 사람의 여정이 어떻게 보면 우리 사회가 어쩌면 나도 영화를 만든 나도 전혀 그 사건의 당사자나 뭐 그것에 대해 전혀 몰랐던 나도 알아갈 때 느꼈던 그 어떤 고통 있거든요. 그것을 말하고 있는 거기도 해요. 이 유진이라는 인물을 통해서.
Encore une fois, le passé de Eugene, ça reste vague. Mais en fait, elle est en train de suivre le trace de la jeune fille et en le faisant, elle en souffre. Et du coup, ce film, ça parle de ça, cette souffrance qu'on suit en suivant le trace de cette jeune fille.
Quand Eugene va dans la petite boutique pour prendre, elle a dit, je veux deux bières, pareil. Et il y a ce rayon de soleil qui entre dans la pièce, qui va vers les pieds de la jeune femme, et que c'était exactement le même plan, mais quasiment calqué sur le plan quand il y avait Kim Soo-hee. C'est un point très très fort.
T'as bien tout.
Bien sûr.
그리고 그 장면에 대해서 말씀드리자면 사실은 이 영화 자체가 굉장히 현실적이고 굉장히 담담한 어조로 어떻게 보면 객관적이라고 느끼실 수 있을 정도로 그렇게 그런 필치로 계속해 나가는데 말하자면 영화적인 순간이죠. 그 순간이 사실은 일상 속에서 우리가 하루에 한 번씩 겪게 되는 그 찰나이긴 하지만 일상은 그렇게 흘러가지만 영화 속에 그 순간이 탁 담기면 의미를 갖게 되잖아요. 그것을 위해서 그 감정들을 쌓아나간 것도 있고요.
그 film ça garde le ton très réaliste et puis assez distant voire un petit peu objectif, c'est le mot de July, en tout en gardant notre distance. Mais ce genre de scène, c'est le moment cinématographique. C'est le moment où on vit dans le quotidien tous les jours. Mais dans le film, ce moment devient cinéma. Donc en fait, tout le film tourne autour de cette scène pour faire sortir l'émotion dans cette scène. L'histoire tourne autour pour faire sortir l'émotion dans cette scène.
Cette scène-là, c'est vraiment, il y a une sorte de climax. Il y a quelque chose de très très fort. Le rapprochement avec Kim Soo-hee, quand elle était exactement assise au même endroit, en buvant les mêmes bières, et elle regardait justement ce rayon de soleil. Et il y a une autre chose qui est très forte aussi dans le film, c'est le sentiment de solitude des deux femmes.
C'est exactement l'intention qu'elle a eue.
Dès l'écriture.
거의 이 이야기를 떠올릴 때부터
presque le moment qu'elle a pensé à cette histoire, a pensé à écrire le scénario, on va dire.
Parce qu'en fait, ça se ressent dans la construction du film, en même temps de fluidité et une grande logique dans les scènes, les séquences qui se succèdent, qui donnent l'impression justement que tout était déjà écrit, comme si c'était une fatalité, comme si c'était le destin.
고맙네요.
근데
영화를 이제 사실은 자랑 같아서 좀 그렇지만 영화가 완성된 영화를 봤을 때 어쨌건 하나의 영화로 일단은 편안하게 보신 거잖아요. 그러니까 자연스럽게. 하지만 사실은 이런 구조 이런 식으로 구성이 뭐 절반 절반은 아니고 갑자기 주인공이 다른 주인공이 등장하고 뭐 첫 번째 주인공은 죽고 하는 이거 자체가 굉장히 위험하고 좀 그런 시도기는 해요. 그래서 막말로 중간에 이제 소희가 걸어 들어가고 그 물속으로 걸어 들어가고 그리고 화면은 와이드하고 그리고 거기에 암정까지 되고 그랬을 때 관객이 일어나서 나갈 수도 있거든요. 영화 끝난 줄 알고. 이 그럼에도 불구하고 한 시간 뒤에 또 이야기를 봐야 되는 이것까지를 생각했을 때 이게 그 다음에 한 시간까지 봐야지 비로소 온전한 하나의 어떤 필연적인 이야기가 된다는 그거를 해내기가 사실은 시나리오 단계부터 굉장히 면밀히 계속해서 고려한 사항이었다.
Donc en fait, je suis un petit peu gênée de dire ça. Mais en fait, je suis vraiment ravie qu'en tant que public, a suivi cette histoire d'une façon fluide. J'en suis fière. Et parce qu'en fait, il s'agit d'une histoire assez périlleuse, tant que pour une film fiction pareille. Parce qu'en fait, il y a un plan comme ça, et Soyer, elle rentre, enfin voilà, elle se donne la mort dans un réservoir. Et un plan, il est assez large. Puis il arrive, enfin, la lumière, ça part. Le public, comme c'est bon, le film, on y va. Ils peuvent très bien partir. Mais à partir de là, il faut recommencer. Il faut tenir le public encore 8 heures après pour que le film devienne complet. Ça, c'était pas un travail facile. C'est pour ça que j'ai commencé à dire, je suis un petit peu gênée de vous dire, mais j'en suis fière et je vous remercie.
Le film, évidemment, critique le culte de la performance, mais en même temps, Julie a, dans la manière de filmer, la manière de conduire les comédiens et les comédiennes, le perfectionnisme, c'est plutôt bien. Je voulais savoir si elle, elle avait ressenti dans son métier ce sentiment de solitude et d'être obligée de se battre.
사실 운 좋게 첫 영화를 만들고 그리고 좋게 잘 봐주신 분들도 많고 그랬는데 그 다음에 만들고 싶은 영화를 오랫동안 고심해서 시나리오를 썼는데 그게 결국 제작이 되지 않았을 때 사실은 너무나 외로웠고 어떻게 보면은 그 첫 번째 영화가 그렇게 어떤 경쟁에서 살아남은 결과라면 그 다음에 만들고 싶었던 영화는 그 경쟁에서 뭐 낙오된 거기도 하니까요. 그런 과정에서 굉장히 침울해지고 아 이렇게 해서 그만둬야 되나 하는 생각까지도 하고 당연히 그런 시기가 있었습니다.
J'ai eu vraiment de la chance de pouvoir produire, enfin, faire produire mon premier film. Mais après avoir achevé mon premier film, j'avais un 12e scénario auquel je tenais beaucoup, mais ça n'a pas été fait. On peut dire que si le premier a gagné dans une compétition et la 12e, j'en étais perdue. Et là, en ce moment-là, bien sûr, j'avais un sentiment d'impuissance, solitude.
Est-ce que c'est plus difficile pour une femme de faire du cinéma ?
지금 그렇다기보다는 여성 감독이라서라기보다는 여성이 주인공이고 여성이 주도적으로 서사를 이끌어 나가는 이야기가 여전히 아직 주영화가 안 되는 상황인 것 같아요. 여성이 주인공이고 여성이 서사를 이끌어 나가는 이야기라면 당연히 여성 감독이 제일 잘하겠죠. 근데 그런 이야기를 주류 상업 영화에서 원하지 않는다. 여전히 한국 영화 이 시스템 내에서는 남자가 주인공이고 여성은 그 주인공을 서포트하거나 아니면 어떤 연인이거나 하는 유의 영화가 훨씬 더 주류를 이루고 있다 이런 것 같아요.
On peut pas dire que c'est parce que on est femme, c'est beaucoup plus difficile de devenir réalisateur réalisatrice. La question n'est pas là en fait. C'est-à-dire que dans l'industrie cinéma coréen, le film dont le personnage principal sont féminins, donc le protagoniste, c'est rare. Et donc c'est toujours le film qui est au cœur du cinéma coréen, ce sont des hommes qui mènent l'histoire. Comme en tant qu'une femme, on sait faire des personnages principaux, alors que comme l'histoire principale est menée par des hommes, ce sont des réalisateurs qui trouvent la place au centre du cinéma coréen.
Alors là, en plus de ça, Julie, elle inverse les rôles d'une certaine manière traditionnelle, puisque c'est les deux femmes qui sont les personnages principaux. Et il y a un personnage, bon, on pourrait dire presque périphérique, mais en fait il est très important, c'est le personnage du jeune homme. D'autant plus que ce jeune homme-là, il n'a pas le choix de pouvoir faire un autre travail, puisque lui n'a pas les moyens, comme l'ami de Kim So-hee. Bon, son frère lui loue un appartement, etc. Kim So-hee, elle habite chez les parents, mais lui, il est tout seul. Et donc le personnage masculin, qui d'ailleurs revient à la fin, et à ce rapport justement avec Yoo-sin. Donc là, il y a quelque chose qui se passe. Et là, moi, j'ai beaucoup aimé cette partie. On le voit dans quelques scènes, c'est tout. Est-ce que ça, c'était important aussi pour Julie de montrer que tout le monde est à la même enseigne, que tout le monde subit cette société ultra-libérale ?
특별히 그 배역에 있어서 지금 말씀하신 것처럼 그렇게 분배하지는 않았고요. 다만 이 영화 내에서 어떻게 보면 가장 악역이라고 할 수 있는 캐릭터. 오히려 전 팀장님은 그런 먼저 돌아가신 그런 분이고 그 사람은 남자고 그리고 뒤에 등장한 진짜 같은 역할이긴 한데 악역이라고 할 수 있는 새 팀장을 여성으로 한 거. 그리고 또 선생님도 있고 교감 선생님도 있는데 사실은 그 위에 진짜 더 악역을 담당하고 있는 장학사라는 캐릭터를 여성으로 한 거. 이것은 제가 일부러 한 거긴 해요. 그리고 말하자면 이것은 페미니즘적 관점인데 진짜로 제대로 된 악역을 여성이 담당하도록 하고 싶었던 이거 굉장히 영화적인 요 범위 내에서 뭐 이걸 뭐 특별히 뭐 현실적으로 뭘 비판한다거나 라기보다는 제대로 된 캐릭터를 여성이 담당하도록 만들고 싶은 그건 있었어요.
Par rapport au Tae-jun, donc l'ami de So-hee, j'ai pas vraiment pensé à cette partition masculin-féminin, mais par rapport aux autres, le personnage le plus vicieux, par exemple si on pense, le manager qui se donne mort, le premier manager qui était plutôt gentil, c'était un homme. Et puis le douzième qui arrive, qui est quand même assez vicieuse, elle est une femme. Et puis aussi, il y a le professeur, le référent de Soyi, c'était un homme. Et puis aussi, il y a le vice-président de l'école, c'était un homme. Et au-dessus de tout ça, il y avait un rectorat, une femme. La plus vicieuse, c'était une femme. On ne peut pas dire c'est féminisme ou pas féminisme, mais elle voulait que ça soit la femme qui prend le rôle le plus méchant.
Elle voulait faire le portrait d'une Margaret Thatcher.
Oh, toujours une Guinée.
Ah bah ça, c'est bien.
Avec une scène de danse, donc c'est Kim So-hee qui se filme en train de faire une performance qui est très belle d'ailleurs. Et puis à la fin, c'est la même scène qu'on retrouve, sauf elle est filmée différemment, mais c'est le même contexte. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, Kim So-hee n'a laissé que cette trace d'elle, volontairement. Et important aussi, c'est que Yoo-sin, elle a participé à ses cours de danse, donc elles se sont croisées aussi à un moment donné. Donc je voulais savoir si justement la danse, est-ce que, qui est pour, je pense, Kim So-hee une passion, est-ce que c'était quelque chose qui a vraiment existé et qui, mais qu'elle gardait un peu comme un secret intérieur?
Ah, c'est déjà...
Parce que les parents ne sont pas au courant.
그렇다고 해서 감히 뭐 꿈이 댄서가 되겠다거나 그런 것도 아니고 뭐 한국에서 다들 아이돌 스타가 되고 싶어하는 그런 거를 반영하는 것도 아니고 그냥 그 또래 그 아이가 마냥 좋아서 하고 싶은 거 그거를 표현한 것이고 당연히 영화 속에서 누군가가 춤을 추는 모습을 보는 것은 또 남다른 감흥을 주니까요. 그렇게 계속해서 완성하고 싶었던 춤을 틀리고 함에도 불구하고 계속해서 다시 일어나서 추다가 오프닝 이후에 영화 속에서는 이제 그냥 지나갔지만 결국에 마지막에 그거를 완성하고 남은 거. 어쩌면 그거는 처음에 오프닝 장면에서 그날 완성한 춤이겠지요. 하지만 유일하게 그것만을 남기고 싶어하는 그 마음, 그런 거를 관객분들이 마지막까지 좀 갖고 갔으면 좋겠다. 그렇게 뭔가를 이뤄내고 기뻐했던 아이다. 뭐 다른 거 뭐 필요 없이 오로지 그거 하나 그 반바퀴 성공하는 그것만으로도 그렇게 좋아하고 펄쩍펄쩍 뛰고 성취를 느끼고 했던 그런 아이였다 하는
C'est sa véritable passion. Mais elle voulait pas non plus devenir une danseuse professionnelle. Elle voulait pas devenir idole que tout le monde adore et tout ça. C'était juste une petite passion qu'on peut avoir en tant qu'une jeune fille à cet âge-là. C'était ça. Mais en même temps, mais aussi cinématographiquement parlant, quand on voit quelqu'un danse, ça évoque une émotion assez particulière. C'est pour ça. Et après, elle n'arrive pas à faire une telle et telle chose et elle recommence et elle recommence. À la fin, elle arrive à le faire. La scène qu'on voit à la fin dans le vidéo, c'est le premier jour où elle avait réussi, elle avait enregistré et voulait laisser que ça d'elle. Je pense que tout ce qu'elle voulait que le public sente et remémore, c'était ce joie qu'elle avait eue en ce moment-là. Et puis ce sentiment d'achèvement qu'elle a eu, cette petite fille, en faisant cette performance.
Tu as réalisé un thriller social, au-delà même du politique, du psychologique. Et ce film a une résonance complètement internationale, universelle. Parce que ce que tu décris, c'est hélas ce qui se passe aussi dans d'autres pays.
이 사람들이 과연 이거를 이해나 할 수 있을지 진짜로 그걸 걱정했었는데 오히려 그 걱정이 기우가 된 것처럼 자기 자신들의 일로 굉장히 구체적인 디테일에 있어서는 물론 차이가 있을 수는 있지만 그렇게 받아들여 준 것 같아서 내가 더 놀랬다고.
En faisant ce film, elle avait aucune idée qu'elle aurait une telle reconnaissance internationale. Elle avait aucune idée. Elle avait même peur que est-ce que les étrangers vont comprendre ou pas mon film et tout ça.
Ah si, si, si.
Et après, heureusement, elle avait eu beaucoup de chance de rencontrer le public étranger. Et là, elle a compris que eux, ils prenaient vraiment comme si c'était l'air, même si le petit détail qui change, mais j'ai compris que ça leur parlait complètement ce film.
Oui, c'est une démonstration absolument admirable de ce qu'est la politique ultralibérale. La déshumanisation, en fait.
그렇게까지 원대한 계획은 없었는데 아무튼 나는 그 이 속에서 내가 만난 그 현실을 내가 할 수 있는 한 어쨌건 현실적으로 표현하기 위해서 노력.
Au début, j'ai pas prévu de faire un projet aussi universel de ma part, mais je voulais faire sentir cette émotion de ce personnage à la base.
Est-ce que je pourrais dire que ce film, en fait, c'est effectivement un film sur la déshumanisation par le travail de cette manière-là, et est-ce qu'on peut même parler de barbarie ordinaire?
둘 다가 아닌가요? 사실은 소희가 하는 말들을 이제 들어보면 예를 들어 영화 속에서 왜 해지하고 싶은 고객이 자기 돈 내고 자기가 위약금을 물고라도 해지하겠다는데 왜 그걸 막냐 하는 너무나 상식 굉장히 그냥 평범한 사실이 왜 거부당하고 있는 건지 그게 왜 이 속에서는 그게 말이 되는 현실로 지금 받아들여지고 있는 건지에 대한 이야기이기도 하니까 그거 자체가 사실은 비인간화잖아요 이 고객을 인간이고 그 목적을 갖고 있는 사람으로 보는 게 아니라 실적의 수단으로 보고 하니까 지금 이게 당연히 그걸 생각하니까 또 벌어지고 있는 일들 그게 만연하다 보니까 이게 시스템이 된 거고
En fait, c'est un peu les deux dans le sens où, par exemple, quand on pense à ce qu'elle dit Soi dans ce film, mais pourquoi il faut dissuader la personne qui veut résilier son contrat? Pourquoi? Je comprends pas. Mais en même temps, c'est parce qu'on voit cette personne comme un taux de réussite, en fait. Voilà. Et du coup, dans ce sens-là, on peut voir une sorte de déhumanisation, mais en même temps, tout le monde le fait, en fait. Oui, c'est partout.
Justement, barbarie ordinaire.
Voilà, tout le monde le fait partout. Voilà, le système qui tourne autour de...
Oui, en fait, il est question d'une imprégnation sociale à tous les niveaux.
Voilà.
Oui.
C'est ce que dit le film.
Oui, 근데 나는 이 영화에서 가장 내가 생각하는 가장 중요한 대사가 소희가 그 질문을 하고 나중에 유진도 같은 질문을 하는데 담임 선생님한테 내가 거기서 무슨 일 하는지 알아요? 라고 묻는 거 그리고 유진도 나중에 그게 무슨 일인지 알아요? 라고 묻는 거 정작 중요한 건 학생이 일을 하는 거니까 그렇다면 그 일이 뭔지가 중요할 텐데 정작 중요하지 않아요 이 그 선생님한테도 중요하지 않고 학교에게도 중요하지 않고 이 전체 사회에서도 중요하지 않고 그런 것을 통해서 좀 더 드러나는 게 있다고 생각해
Le dialogue le plus important pour elle dans ce film c'est à un moment donné ce dialogue arrive deux fois dans le film une fois à travers Soi et une fois à travers Yuzin tu sais ce que je fais au travail dans le sens où en quoi consiste mon travail est-ce que tu sais est-ce que tu es conscient personne ne le sait en fait voilà donc dans ce système là on s'en fiche ce qu'on fait c'est juste le moment où elle a un travail c'est fini donc là il faut réfléchir à ce système
c'est une des choses les plus importantes dans le film où est-ce que tu as dégoté trouvé cette jeune comédienne qui fait justement ce oui
우리 영화 연출팀의 조 감독이 그 전에 작업에서 함께 같이 했던 배우였는데 우리 영화에서 한번 만나봤으면 좋겠다고 아주 가볍게 제안을 했고 나도 가볍게 만나보자고 하고 부담 없이 만난 미팅 자리였는데 얘기 몇 마디 나누다가 아, 얘가 소희구나 하는 느낌이 왔고 그 자리에서 캐스팅한
Donc en fait elle connaissait pas du tout cette actrice et c'était son assistant réalisateur qui lui a présenté d'une façon très informelle mais la première fois qu'elle a rencontré cette jeune actrice au bout de quelques échanges elle dit mais en fait c'est elle
그리고 이 작품이 공개가 된 영화로는 데뷔작
Officiellement c'est son premier long métrage
Tu as parlé tout à l'heure d'un second projet de film que tu n'as jamais réalisé. Est-ce que tu vas le réaliser?
마음속에 늘 있는 작품.
C'est le projet qui reste.
여전히 마음속에 있고.
Tout ce que je peux dire là pour l'instant, c'est le projet que je garde tout au fond de mon cœur.
J'espère que tu vas le réaliser.
Thank you.
Après les conditions de travail dans l'univers ultralibéral, les manipulations étatiques et médiatiques d'une affaire biaisée depuis son origine. Relax d'Audrey Ginesté. Anarcho-autonome, ultra-gauche, terroriste, anarchiste, l'affaire du groupe de Tarnac, tout d'abord très médiatisée, est ensuite tombée dans les oubliettes des grands médias. Mais durant 10 ans, la procédure a continué pour les accusés, entre guillemets. Relax d'Audrey Ginesté témoigne de l'emballement qui a permis une construction politique et médiatique à la fois exemplaire et banale. sans preuve réelle. Un spectacle médiatique. Relax d'Audrey Ginesté revient sur 10 ans de procédure basée sur une suspicion fantasmée et sur un dossier vide. Le film Relax est particulièrement intéressant à voir dans un moment où les violences policières se banalisent encore, avec les gardes à vue qui actuellement se multiplient pour avoir manifesté, pour refuser les injustices et les abus, ou simplement pour adopter une autre manière de vivre. Relax, un film d'Audrey Ginesté.
J'ai décidé de filmer pour raconter une contre-histoire. Parce que l'affaire donc, dite de Tarnac, qui a commencé en 2008, ça a été d'abord une affaire d'image. Les caméras de télévision étaient là avant les policiers. Donc c'était une affaire spectacle, on va dire. Les mises en examen, enfin les inculpés, les relaxés aujourd'hui, se sont défendus par voie de presse, etc. Mais ça n'a pas tapé aussi fort médiatiquement. Et j'avais le sentiment qu'un film pourrait répondre à la force de l'attaque.
Mais pourquoi 6 mois avant le procès? Parce que justement, cet afflux médiatique qui est arrivé sur place ou...
Alors, 6 mois avant le procès, c'est parce que j'ai mené des entretiens préparatoires en 2015, donc c'est 3 ans avant le procès. À l'époque, ils espéraient encore un non-lieu. Ils pensaient qu'il n'y aurait pas de procès. Et donc, à ce moment-là, c'était un tout autre film, en fait, que je comptais faire. Et puis ensuite, ben, le réel nous rattrape.
On a un invité supplémentaire, hein. C'est Armand qui s'exprime.
Voilà. En fait, il a fallu que je m'ajuste à chaque fois à ce qui se passait. Et on va dire qu'un an avant le procès, enfin, ils apprennent qu'ils vont avoir un procès. La date a été reportée plusieurs fois. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait un compte à rebours qui se passait, qui pouvait permettre de retracer l'histoire des 10 ans, l'histoire de cette affaire. En très peu de temps, il fallait condenser en fait les 10 ans de l'affaire dans ce compte à rebours vers un procès. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé le film en fait. Parce que le cinéma, il faut quand même, il vaut mieux commencer la narration le plus tard possible si on veut que ça tienne.
Tu as fait ça toute seule ?
Toute seule, oui.
C'est-à-dire le son, l'image, tout ?
Oui. Bon, déjà, ça me semblait très difficile d'amener une équipe. Parce que, on va dire que les mises en examen, il y en a certains que je connais très bien, d'autres moins, mais c'est des gens qui se méfient des caméras, qui n'ont jamais voulu être filmés, à moins que ce soit décidé par eux pour les besoins de la défense. Il faut savoir aussi qu'ils ont été surveillés, mis sur écoute, filmés, enregistrés par la police pendant des années, et que finalement, il y avait un peu la peur de ce qui allait pouvoir encore être joué contre eux. Donc là, amener une équipe là-dedans, c'était pas... En termes de confiance, etc., c'était pas possible. Après, qu'est-ce qui s'est passé aussi ? Bon, il se trouve que moi, j'ai fait une école de cinéma qui nous encourage à faire des films de cette façon-là, en fait. C'est-à-dire avec les moyens du bord, comme on peut. Moi, ça me permettait d'être très mobile. Voilà. Donc, on va dire, j'ai choisi la caméra en fonction du son. C'est-à-dire, moi, je suis une preneuse de son, mixeuse pour le cinéma, etc. J'ai choisi une caméra très légère sur laquelle je pouvais mettre un super micro. Et j'ai mis un objectif fixe de 50 mm, pas de zoom. Si je veux des gros plans, il faut que je m'approche. Et donc, le son sera bon. Je me suis contrainte pour pouvoir faire un film, pouvoir vraiment enregistrer la parole.
Quand tu décrivais le processus de filmage et de prise de son, j'ai pensé évidemment à Emmanuel Gras. Avec Un peuple, mais aussi avec Basile Carré-Agostini, Laurie Lassalle pour Boum Boum.
Oui, que je connais, oui.
Voilà, donc toutes ces personnes-là ont décidé, comme toi, je me souviens qu'Emmanuel Gras, quand je l'ai eu en interview, il m'a dit, j'ai vu ce qui se passait, alors bon, j'ai pris ma caméra, puis je suis descendue, quoi. J'ai
ouais.
pas...
Ouais. Ouais, et ben, on va dire aussi que j'ai été beaucoup encouragée par un cinéaste qui s'appelle Alain Cavalier, qui, lui, dans l'histoire de sa carrière, a commencé par le grand cinéma, avec les grands acteurs, les décors, les grosses équipes techniques, etc. Et qui s'est dépouillé de tout pour faire un cinéma avec une caméra. Et lui, il a fait des films comme Le Filmeur, comme voilà. Et il encourage, en fait, les cinéastes à filmer le réel, qui est souvent bien plus complexe que les histoires qu'on vend. On a un bébé qui fait du bruit. Voilà, et de se dire que les histoires qu'on veut raconter, les gens qu'on veut filmer sont tout aussi valables, en fait, voire plus, que les histoires qu'on raconte avec des acteurs.
tu connais ces personnes donc depuis pas mal de temps, et en particulier Manon, tu la connaissais plus, c'est une amie à toi.
Manon, c'est la sœur de mon compagnon, donc je la connais depuis plus de 20 ans.
J'ai pas l'impression que c'est seulement le fait que vous soyez très proches que tu as choisi finalement Manon, qui est un peu le fil conducteur tout au long du film. J'ai l'impression que Manon était quelqu'un, bon, elle se mettait un petit peu en retrait au départ, et puis d'un seul coup, ce qui est très important, c'est qu'elle a une sorte de distance par rapport à tout ce qui s'est passé, et elle a un regard très critique.
Quand même, si on va dire que c'est un choix, c'est-à-dire elle m'a choisi, je l'ai choisi. Elle me fait confiance, je lui fais confiance. C'est moins le cas des autres qui me connaissent moins, des autres inculpés. Donc il y a déjà quelque chose comme ça. Deuxièmement, Manon ne voulait pas jouer le jeu de la justice. On va dire que c'est la seule, finalement, qui a fait ça, qui a décidé d'écrire une déclaration qui, normalement, les déclarations, c'est des procès de rupture, c'est des brigades rouges, c'est les gens qu'on connaît. Et donc au moment où elle fait ce choix-là, j'ai eu envie déjà d'être là, de la conseiller. Je me suis dit que c'était aussi quelque chose à filmer, parce que cette déclaration, c'est ramener du collectif dans quelque chose qui est normalement où on est seul, c'est-à-dire comparaître dans la justice, on est seul. Et donc elle a réussi avec cette déclaration à faire quelque chose de, voilà, qui la concerne, mais qui est écrit collectivement. Donc ça convenait pour le cinéma. Il y a plein de choses comme ça. Et aussi, c'est une femme. Et parce que c'est quand même important maintenant de montrer que les femmes... sont probablement aussi courageuses, voire plus parfois que les hommes. Il y avait aussi tout son groupe de défense qui était à 90% fait de femmes. Donc moi je suis touchée par les histoires de femmes, hein, on va le dire, parce que je suis réalisatrice et que c'est pareil, il y a peu de femmes réalisatrices, voilà. Et que c'est pas parce qu'elle a été au second plan pendant une partie de l'affaire qu'elle avait pas des choses aussi importantes à dire, voilà.
C'est ce qu'on ressent en regardant ton film, n'importe comment, c'est quelque chose d'assez fort. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'elle a les pieds sur terre, d'une certaine manière, pour regarder les choses et avoir un regard. Et ça, comme tu dis, sa déclaration, elle est fantastique.
Voilà, et aussi, elle ne se considère pas comme... c'est pas une théoricienne, Manon, c'est une femme très pragmatique, on va dire. Donc l'écriture de cette déclaration, c'était vraiment une épreuve, hein, pour elle. Et il y a une forme de sincérité qui est incroyable, on va dire, par rapport à quelqu'un qui serait beaucoup plus doué avec les mots. Oui, moi j'étais très... De toute façon, je suis très touchée par cette personne, au-delà du fait que je la connais très bien.
Tu as réussi à rendre ça dans le film pour un public. Moi, je ne la connais pas, cette femme.
Oui.
Et je connaissais de manière très superficielle l'affaire, puisque au début, oui, bien sûr, parce qu'il y a eu tout le truc, mais après, c'est un peu tombé dans les oubliettes.
Voilà. Hein, oui.
Ça, c'était...
C'est ça.
C'est une procédure, d'ailleurs, qui n'est pas nouvelle. Et puis, et donc, d'un seul coup, j'avais l'impression d'écouter une copine, quoi.
Mais tant mieux, c'est ce que je voulais. Encore une fois, je repense à Alain Cavalier et à tous ces cinéastes qui, quand on tire une caméra, il se passe quelque chose en fait avec les gens qu'on filme. Hein. Il y a un fluide, il y a quelque chose. Et normalement, ce quelque chose se transmet au spectateur. Moi, j'ai une confiance, j'ai une grande confiance là-dedans. Si on sent que ça vibre, c'est que ça va vibrer aussi à l'écran. Hein. Et c'est ce qui fait que pour moi, c'est plus difficile de tourner avec une équipe. Parce que je suis dans un rapport sensoriel, sensitif, en fait, avec ce que je filme. Et quand il se passe quelque chose, je le sais.
Oui, c'est-à-dire que là, il y a un rapport direct.
Oui, il y a un rapport direct.
Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais commencé, d'ailleurs, très tôt, à travailler sur l'idée d'un film, mais sans savoir peut-être exactement. Donc, est-ce qu'il y a quand même, tu es passé par l'écriture ou tu es passé simplement par le stade de la recherche, de lire un peu tout, de connaître un petit peu de l'histoire?
L'écriture du dossier du film ou l'écriture du film, je l'ai faite... après le tournage. Par contre, beaucoup de recherches, beaucoup de lectures. Beaucoup, beaucoup de lectures et des entretiens avec les inculpés. Bon, il y a déjà tout ce qui, d'un point de vue journalistique, est sorti sur l'affaire et par les inculpés eux-mêmes, en fait. Hein, ils ont écrit beaucoup de choses dans la presse pour se défendre. Il y a un ouvrage qui recense tout ça. Ça a été édité par Lundi Matin.
Pourriez-vous nous dire où vous habitez ?
10 rue des Hameaux, Tarnac.
Vous habitez seule ?
Avec ma fille.
يا رسول الله
حبيب قلبي نبي الله
يا رسول الله
أجل لا صلى نبينا يا رسول الله
يا الله يا نبينا يا رسول الله يا الله يا
جينا بنا يا رسول الله جينا لسعدنا بنا يا رسول الله نبينا
الله يا نبينا
يا رسول الله
حبيب قلبي نبي الله
يا رسول الله
انظر رجال الله
يا رسول الله
Oh yeah.
sur Libertaire, Radio Libertaire. On va parler de polar, du Libertaire, Radio Libertaire.
De 17h à 19h,
baby,
ton ami Bob reçoit le gratin des auteurs.
T'as bien capté, bulle noire, sur Libertaire, Radio Libertaire. On va parler de polar, sur Libertaire, Radio Libertaire.
Attention, c'est pas l'heure de 4 heures,
baby.
Faut pas te tromper, les flingues vont sortir des holsters.
Radio Libertaire sur 89.4.
Bientôt, la grande porte fut refermée, assombrissant l'intérieur de la grange que n'éclairait plus que la lumière du jour, venue de l'autre côté, derrière l'estrade. Les musiciens interrompirent leur mélodie improvisée, s'inclinèrent devant les spectateurs et se retirèrent, chacun sur son côté de la scène, tandis que le voile s'ouvrait par le milieu. La rumeur de la foule se faisait murmure. Nicholas Fox apparut sur la scène. Zachary trouva d'abord Fox comique. C'était un tout petit homme que son accoutrement rétrécissait encore. Son visage de chérubin rougeau était englouti sous les boucles d'ivoire de la perruque qui tombait en cascade de chaque côté de sa tête, et les fronces volumineuses du jabot attachées sous son menton, lequel semblait fabriquer sans cesse de nouvelles fronces sous le regard de Zachary. Fox portait un costume uni, gilet, redingote et culotte du même vert émeraude. Mais cette ridicule apparence était contrebalancée par sa voix, d'une profondeur et d'un timbre inattendu. Dès qu'il ouvrit la bouche, les spectateurs furent réduits à un silence stupéfait. « Bienvenue, mes amis, dit Fox, dans mon exposition des curiosités médicales. Quelle splendide occasion vous est offerte, car vous êtes sur le point de contempler les transformations les plus extraordinaires, les plus effroyables de la forme humaine. » Glané aux quatre coins des îles britanniques, pour être offerte à vos regards. Lorsque mon œil se pose sur vous, je ne peux m'empêcher de jalouser votre innocence. Pour ceux d'entre vous qui sont hommes d'âge mûr et que la vue de 10 000 couchers de soleil a blasé, n'est-ce pas le plus rare des plaisirs de se retrouver à la frontière de l'inconnu, de faire véritablement connaissance avec la nouveauté? Ne vous taquinais-je pas, cruel que je suis, par le truchement de cette tenture et de ce préambule? Ne vous pourléchez-vous pas les babines d'une délectable impatience? Mais oui, je vous vois sourire. Le visage de Nicholas Fox se fendit d'une grimace qui exprimait un plaisir sincère et contagieux. Puis, l'homme se renfrogna. Mais n'est-il pas vrai que tout n'est pas digne d'être su? N'y a-t-il pas de nombreux mystères qu'il vaut mieux ne pas dissimuler?